On pourrait dire que l'écologie politique, bon, en gros, en général, la fenêtre vers les années 60, 70. Moi, je remonterai un petit peu plus tôt pour intégrer, vous allez voir, un courant qu'en général, on n'intègre pas dans l'écologie politique. Mais pour moi, c'est le fruit d'une première sédimentation de la pensée écologique. C'est-à-dire, finalement, pendant, grosso modo, depuis le milieu du 19e jusque vers la fin des années 60, on a accumuler un certain nombre d'informations, d'analyses, de diagnostics, et il ressort à ce moment-là, et en fait c'est vraiment le fruit de cette pensée écologique, on va y revenir, il ressort que face à l'accumulation des difficultés dont on commence à prendre alors conscience, mais une conscience déjà assez vive, vous allez le voir, est déjà très structurée, eh bien on ne saurait s'en sortir qu'avec des solutions technologiques. En d'autres termes, l'idée de l'écologie politique, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés exigent une réorganisation relativement profonde de nos sociétés. Et on va retrouver dans l'écologie politique les deux traits fondamentaux de cette pensée écologique qui se sont créés, renforcés depuis au moins le milieu du 19e, à savoir un scepticisme eu égard au pouvoir de nos techniques, dans nos relations à la nature, et puis une critique justement du type de relation à la nature qu'on entretient, et notamment une critique de l'anthropocentrisme. Alors très rapidement, on voit qu'un certain nombre de questions qui se posaient au seuil de cette écologie politique se posent toujours. On posait la question de la démocratie, évidemment la question de la décroissance. En fait, vous allez le voir, même si c'est parfois sous des formes un peu originales auxquelles on ne pense pas forcément, mais le thème de la décroissance est consubstantiel à toutes les expressions de l'écologie politique. Le mot non, mais le thème. Oui. Et l'effondrement, bien sûr, il est là très très vite. Hein. Le rapport Meadows est celui qui place au cœur la question de l'effondrement. En fait, là, pose indirectement, là, sans qu'on parle encore de pic, même si évidemment Marion King-Huber, lui, l'a déjà pensé, mais la question de la fin des fossiles est là, la nécessité de développer des énergies alternatives, alors le solaire, pensait-on beaucoup aussi à l'époque, et évidemment l'écologie politique, comme aujourd'hui d'ailleurs, est confrontée à une indifférence majoritaire forte. Ça n'intéresse pas grand monde. Bon. Là, il y a une surconcentration dans cette salle, mais franchement, c'est tout à fait anormal. Alors, donc, il me semble qu'on peut distinguer les courants suivants. On pourrait distinguer un courant malthusien, je vais essayer de m'en expliquer, un courant arcadien, un courant autoritaire, un courant institutionnaliste, et puis, alors, je suis désolé, mais je vais mettre dans le même paquet pour le distinguer après, un courant à la fois apocalyptique, mais dans ma bouche, alors c'est vraiment pas avec une tonalité négative, apocalyptique, survivaliste, lié à la question de l'effondrement. Vous allez voir qu'on peut le diviser lui-même en deux sous-courants, mais ça, je le verrai après. Alors, en fait, le courant malthusien, alors, malthusien certes, mais je ne mets pas Malthus dedans, on ne peut pas encore parler d'écologie, c'est antérieur à la naissance de la pensée écologique, mais ce courant malthusien, c'est probablement le plus ancien parce qu'il émerge assez fortement dès l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est plutôt un courant qui est animé par des biologistes. Alors, une des exceptions, c'est une des dernières figures que je rentrerai là-dedans, qui est Stephen Immott avec son petit livre extrêmement vif et virulent qui s'appelle Ten Billion. Lui est pas du tout enfin, pas un peu, mais sa spécialité, c'est la photosynthèse artificielle, je crois. Mais bon, c'est quand même, il est un peu, c'est quand même presque pratiquement toujours des gens qui tournent autour de la biologie. Donc, le thème fondamental est le thème population-nourriture, évidemment, puisqu'on est malthusien, mais aussi la question de la destruction des sols. La critique de l'anthropocentrisme, c'est très fort dans tout ce courant, un peu moins chez Immott, mais chez tous les autres absolument. L'idée qu'on a entamé une guerre contre la nature. Et puis évidemment, ces connotations sont proprement malthusiennes, c'est-à-dire que le fauteur de troubles, c'est le peuple, qui est prolifique, qui est évidemment plus nombreux que les riches, ça vous étonnera pas, c'est pas un scoop, mais de ce fait-là, ce sont les coupables désignés. Et donc la décroissance dans ce cadre-là, évidemment c'est pour ça que je vous disais, la décroissance est toujours là, mais parfois elle se donne sous des figurations originales, c'est quand même une décroissance démographique, dont il est essentiellement question. Alors, c'est pas je reviendrai, mais on a quand même affaire à de l'écologie politique parce qu'on a ces deux traits. On a un scepticisme vis-à-vis des techniques à faire face au problème, d'où précisément la nécessité de faire baisser le seuil démographique. Et puis, aussi au cœur de cette mouvance, on a aussi l'idée d'une réforme du vivre ensemble. Mais c'est une réforme du vivre ensemble, en quelque sorte, purement réactive. C'est très clair déjà dans le célèbre texte d'Ardenne sur la tragédie des communs. Ben, effectivement, nous sommes plus nombreux et le fait que nous sommes plus nombreux font que les règles morales doivent changer. Les règles fondamentales du vivre ensemble doivent changer, mais elles doivent changer de façon réactive par rapport à une surpopulation qui change en quelque sorte, qui change en quelque sorte la donne. Donc, on est quand même dans l'écologie politique, même si en général on range pas ce courant-là dans l'écologie politique. Ensuite, deuxième courant, le courant arcadien. Alors, c'est vraiment le courant français par excellence. Je rassure les gens dans la salle qui ne s'y reconnaîtront pas, mais une grande partie de l'expression française de l'écologie politique, enfin en tout cas historiquement, va se reconnaître dans ce courant, même si un des porte-drapeaux les plus importants, rien de français, c'est évidemment Illich. Alors là, on a c'est la critique des techniques qui est au centre. Pourquoi ? Parce que le productivisme, parce que l'idéal d'un enrichissement matériel indéfini et individuel sont inaptes à nous rendre heureux. En fait, c'est d'une part, et d'autre part, nos techniques sont incapables de faire face à l'accumulation des problèmes écologiques, même si certains, c'est plus mineur. Souvent, c'est le premier aspect qui est mis en avant, mais on voit l'autre. Alors, ce qui est très intéressant dans ce courant de l'écologie politique, alors ça, pour le coup, rupture totale avec le libéralisme, la question des fins est une question collective. C'est une question politique. Donc, on va voir la question de la contre-productivité, la question de la convivialité chez Illich. Bon, il y a une sorte même d'inversion par rapport à l'idée du progrès. C'est-à-dire qu'en fait, un progrès indéfini, uniforme, mécanique, automatique, suivant les mécanismes du marché, n'aboutira qu'à nous rendre relativement malheureux. Et on range pas, c'est pour ça que j'insiste un peu sur lui, on range pas en général Jouvenel là-dedans, ce qui est complètement idiot. Alors pourquoi ? Bah parce que Jouvenel, journaliste brillant, a été invité pour une interview par Hitler avant-guerre et qu'il a trouvé Hitler très sympathique. Bon, il l'a dit. Donc, vous imaginez la tête des Français en 1940. Donc du coup, Jouvenel a été voué aux gémonies. Mais alors, et puis alors en plus, c'est très étonnant pour les gens parce que Jouvenel, membre de la Société du Mont-Pèlerin, ami distancié quand même d'Hayek, machin, etc. Bon, vous vous souvenez que c'était Raymond Aron qui est venu et qui en est mort pour le défendre à son procès, etc. Donc on le classe pas là-dedans, mais en fait, Jouvenel est un décroissant en quelque sorte qui s'ignore et un radical par certains côtés qui s'ignore aussi. Alors pour lui, bien évidemment, la production suscite tout autant de maux que de biens. Et donc en aucun cas elle ne peut être une fin en soi, d'où la nécessité encore précisément de poser la question des fins. C'est le refus de la puissance, c'est le refus de l'équivalence liberté-marché. Par exemple, le marché débouche nécessairement sur l'enlaidissement et l'envahissement des espaces publics. C'est pas rien. Petite citation de Jouvenel, nous voulons élever notre niveau de vie, et ironie de la nature, plus notre niveau de vie s'élève et plus l'air que nous respirons est pollué. Le pauvre Kuznets ne devait pas s'en remettre, hein. Je ne sais pas s'ils ont discuté tous les deux, mais bon. La nouveauté n'est pas que les hommes veuillent être riches, mais c'est que ce désir humain soit devenu le grand objet du gouvernement et la préoccupation des intellectuels. Assez intéressant. L'enrichissement ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le travail d'autrui et par conséquent ne peut avoir lieu que sur les uns aux dépens des autres, etc. On peut ranger dans ce courant Charbonneau. Alors moi, j'ai découvert récemment cette hérédité dans l'excellente collection de Christophe Bonneuil, l'Anthropocène, où Charbonneau a un petit texte écrit avec Ellul où il met en avant la force révolutionnaire du sentiment de la nature. On est aussi sur cette recherche des aliénités de l'existence. À la limite, on l'a différemment chez Ellul, c'est en fait là plutôt la défense du fort intérieur et la spiritualité. Mais on est aussi dans le qualitatif. On est aussi dans une forme plus sublimée d'aménité. On pourrait dire que chez Castoriadis, on aurait le plaisir de l'agora. La jouissance de l'agora et de la décision collective. Chez Gorz, la réduction de la part du travail salarié, comme contrepartie à la réduction des consommations matérielles, etc. Gorz Trekler, petite parenthèse, je suis son légateur testamentaire, mais pas pour l'aspect intellectuel, c'était pour l'aspect bancaire. Étant franco-suisse, c'est normal. Bon. Et dans les discussions avec lui, le changement climatique s'en foutait complètement. Et je me rappelle qu'il est décédé en 2007. Hein, donc, c'est pourtant une question qui était très vite. Ensuite, tu développes les autres scénarios.
OK. Bon. Donc, je vais parler d'un courant éco-autoritaire. Et bon, depuis les années 70, hein, il a un courant éco-autoritaire parmi les tenants de l'écologie politique. Et c'est toujours les mêmes noms qui sont cités. Et c'est un petit nombre de noms, en fait. Hein. C'est Robert Heilbronner, William Ophuls, Hans Jonas et quelques autres. Mais chaque politologue ou chaque personne qui veut recenser les différents courants de l'écologie politique se sent obligé de constituer tout un courant autour de ces trois ou quatre noms. Hein. Mmh. C'est un peu comme dans le film Casablanca, où le policier corrompu, il rafle les suspects habituels. Donc, c'est un peu comme ça. Mais moi aussi, je l'ai fait, hein, dans mon livre. Ouais. Bah, ben, c'est obligatoire.
Moi aussi. On a tous fait.
Oui. La logique de l'éco-autoritisme, c'est toujours à peu près le même. On constate que l'humanité dépasse dans de nombreux domaines la capacité de charge des écosystèmes planétaires. Et en même temps, ces stocks de ressources non renouvelables sont en cours de perdition. Et devant nous se dresse un avenir de pénurie et de détérioration générale de nos conditions de vie. Et les éco-autoritaires prétendent que les États actuels, les États démocratiques actuels sont incapables de faire face à ce défi parce qu'ils sont basés sur une interprétation de la liberté, une liberté de produire et de consommer comme on veut. Les médias nourrissent ces désirs, leurs représentants politiques se maintiennent au pouvoir en servant ce mode de vie, et pourtant, on va droit dans le mur, comme on dit. Et l'urgence joue un rôle essentiel, la temporalité joue un rôle essentiel dans cette analyse. Nous n'avons plus le luxe de nous appuyer sur des moyens politiques, quels que soient leurs autres atouts, qui prennent des décennies pour atteindre leurs résultats. Il faut une autorité forte pour faire la loi, pour changer l'incitation en faveur des comportements respectueux des conditions d'une vie décente pour tout le monde. Et juste pour prouver qu'il a des éco-autoritaires, j'ai traduit un court passage de l'œuvre de William Ophuls de l'année 1977. Il a dit « La rareté écologique semble engendrer une pression irrésistible en faveur de systèmes politiques qui, selon les critères contemporains, sont franchement autoritaires. Car il n'a pas, semble-t-il, d'autre manière de mettre un frein à la surexploitation compétitive des ressources et d'assurer la gestion compétente des affaires d'une société complexe tout en respectant l'impératif d'un État stationnaire. Le Léviathan peut être atténué, mais pas évité. » Donc, je pourrais vous citer d'autres exemples qui sont à peu près la même chose. Et même si ces expressions remontent aux années 70, dans le sillage du rapport du Club de Rome, sur les limites de la croissance, parfois ce courant ressurgit, et on peut citer d'autres livres qui ont été écrits dans la dernière décennie, qui suivent à peu près la même logique. Et pour moi, l'importance de ce courant, c'est pas que c'est un vrai courant. C'est pas un vrai courant dans le sens d'être un inspirateur de beaucoup de mouvements politiques ou d'être des penseurs qui sont en dialogue entre eux. L'importance, c'est que je pense que ce courant nous donne l'occasion, nous, qui sommes pas autoritaires, de nous mesurer contre leurs propos pour mieux comprendre notre propre vision de la politique. En fait, ces penseurs sont utilisés pour deux raisons. Pour les ennemis, pour les adversaires de toute forme d'écologie politique, on a beau jeu de dénoncer l'écologie politique comme danger pour la démocratie. C'était à peu près la stratégie de Luc Ferry dans son livre sur le nouvel ordre écologique. Il fait des amalgames extravagants entre certains discours des Verts, l'écologie profonde américaine, l'idéologie nazie, réflexion métaphysico-politique de Hans Jonas, et il essaie de noircir la réputation de toute forme de réflexion réflexion politique qui se présenterait comme un projet de société. Ce courant autoritaire a une toute autre signification, à mon avis. Elle nous met au défi d'identifier les erreurs dans la logique éco-autoritaire et d'esquisser des formes démocratiques susceptibles d'éviter ces travers. Et beaucoup de théoriciens de l'écologie politique, parmi vous, il y en a certains, je suis sûr, reconnaissent l'existence de cette pensée autoritaire, mais la rejette aussitôt en faveur d'autres visions de la démocratie, dont il sera question dans la deuxième partie de ma communication. Mais je dirais que l'expérience démocratique, ou l'expérience de l'écologie politique, démontre que les régimes autoritaires sont pas à même de répondre aux défis écologiques. Leur bilan écologique est même pire que celle des démocraties, de ceux des démocraties démocratiques. Même la Chine, aujourd'hui, parfois mise en avant, comme modèle d'un régime qui met en œuvre une politique environnementale conséquente, se trouve contrainte de s'appuyer sur une société civile contestataire pour répondre à la dégradation déflagrante de son environnement. Même un régime autoritaire a besoin de communiquer avec la base pour bien gérer des problèmes écologiques. Or, penser l'écologie politiquement, selon moi, c'est anticiper les problèmes de corruption, d'ignorance, d'imprévisibilité, de trucage, d'effets secondaires, de marchés noirs, de mouvements irrationnels des citoyens. Toute organisation politique est constamment en proie à ce genre de problème. Et on ne peut pas penser l'écologie politique sans en même temps tenir compte de ces dérives de tout système politique. Le contrôle démocratique du pouvoir est une garantie contre la tyrannie, mais c'est aussi le meilleur moyen d'assurer un boucle de feedback ou de rétroaction entre le régime et la société en général. Et même les tenants de l'éco-autoritarisme ont changé leur discours depuis. Depuis les années 70, Heilbronner et Hofuss ont beaucoup évolué sur cette question. Donc, même parler d'un courant éco-autoritaire, c'est parler de qui maintenant, hein? Je ne sais pas exactement. Donc, il faut parler d'un autre courant qui nous avons nommé les institutionnalistes d'une démocratie écologique. Et ça aussi, ce n'est pas une catégorie courante dans le monde anglo-saxon. Mais chez les institutionnalistes, il y a un rejet explicite de l'éco-autoritarisme, donc le passage obligatoire, enfin franchi, et puis on n'en parle plus. Mais il a toujours une déclaration de fidélité aux valeurs démocratiques, d'égalité, participation et contrôle du pouvoir. Les institutionnalistes sont ceux qui font le pari que les démocraties représentatives telles que nous les connaissons, peuvent être transformées en démocratie écologique par l'adjonction de nouvelles institutions et procédures. Et ces réformes auraient pour but d'infléchir le fonctionnement de nos démocraties dans le sens d'une bien meilleure prise en compte de la finitude de notre planète. J'ai construit peut-être 5 sous-catégories ou 5 stratégies d'institutionnalisation. Premièrement, la constitutionnalisation des droits environnementaux. Beaucoup, beaucoup de pays maintenant ont adopté, ont changé leur constitution en faisant... 60, oui, exactement 60, dont la France. Et ils garantissent à leurs citoyens un droit fondamental, un environnement sain ou favorable. Et je veux préciser que le recours à une stratégie constitutionnelle, c'est déjà un aveu d'un défaut dans la démocratie représentative. Parce qu'en mettant dans la Constitution, on dit qu'on ne peut pas se fier aux institutions représentatives fonctionnant selon leur propre mode de fonctionnement. On ne peut pas être sûr qu'ils tiennent compte des enjeux environnementaux qui sont nécessaires. Et donc, on donne aux citoyens, aux ONG, un autre outil, parfois judiciaire, pour peser dans la prise de décision. Donc c'est une façon d'institutionnaliser une autre approche environnementale. En même temps, et pour toutes les stratégies, je vais mentionner quelques points de débat, peut-être des faiblesses aussi de chaque stratégie. Et pour moi, par rapport à la constitutionnalisation, la question est toujours, est-ce qu'on tient compte de ce qui est dans la Constitution ? Souvent, il y a des parties de la Constitution qui sont effectivement lettre morte. Et il faut une société civile très active, avec plein de courage pour utiliser ces moyens. Donc, deuxième stratégie, c'est créer un porte-parole pour les générations futures. On peut inventer de nouvelles institutions, plus ou moins indépendantes du Parlement, dont la fonction spécifique est de veiller au respect des normes de durabilité à tous les niveaux de l'État. Et c'est le cas le plus célèbre exemple de ce type d'institution vient de cet État progressif que nous appelons la Hongrie. Oui. Bah oui, c'est la Hongrie de avant Orban.
Avant Orban.
Oui. Ils ont créé, mais d'autres États ont expérimenté ce genre de poste aussi. Ils ont créé ce qu'ils appellent un ombudsman. Oui, une espèce de médiateur. Qui a un poste et les citoyens et les ONG peuvent se plaindre auprès de lui s'ils constatent qu'il y a une politique qui ne respecte pas les normes de durabilité entreprises par l'État ou par les entreprises privées aussi. Et cet ombudsman en Hongrie peut se vanter d'avoir remporté certaines victoires sur la politique présentiste de son propre pays. Il a réussi, par exemple, à renflouer les caisses d'une banque génétique pour les plantes cultivées lorsque cette banque a été menacée par des coupes budgétaires. Et il est intervenu avec succès pour prévenir la construction d'une centrale électrique au milieu de la région vinicole de Tokaï. Et ces exemples montrent quelque chose d'important, à mon avis. Presque par définition, un défenseur des générations futures, c'est un gêneur. Ouais, ouais. Défendre les intérêts futurs implique soumettre des intérêts présents à de nouvelles contraintes. Et dans un système représentatif, les gouvernements n'acceptent ce genre de médiateur que si sa légitimité et son pouvoir sont strictement limités. Donc, l'ombudsman, il est nommé, il n'est pas élu, donc il n'a pas la légitimité électorale. Il n'a pas de statut constitutionnel, donc il est vulnérable à des changements de politique du gouvernement. Et en plus, il n'a pas de rôle direct dans le processus législatif. D'où une certaine fragilité de son autorité. Donc, lorsque Viktor Orban est arrivé au pouvoir, il a effectivement aboli le poste d'ombudsman. Hein. Il n'en voulait plus de ce gêneur. Et ces expériences suggèrent que cette institution, bien qu'utile, n'a ni la capacité de se protéger contre le pouvoir représentatif classique, ni l'autorité de réorienter ses priorités économiques. Il est à la marge un peu des décisions. Troisième catégorie, nouvelle forme de représentation écologique. Plusieurs penseurs de l'écologie politique ont imaginé une réforme du système parlementaire lui-même. Donc il faut intervenir dans le haut lieu de la démocratie représentative. Il s'agirait de créer un nouveau type de représentant. Ou bien on peut aussi imaginer changer les règles du jeu au sein du Parlement pour favoriser des décisions tenant compte du long terme. Et je vais illustrer cette approche avec deux exemples seulement. Chaque exemple est un peu différent. Donc Andrew Dobson, il a 20 ans, a proposé la solution suivante. Il voulait créer un certain nombre de sièges dans le Parlement britannique, en l'occurrence, qui sont réservés à des représentants des générations futures. Donc, sur les 650 ou quelque chose parlementaires, peut-être on réserverait une vingtaine ou une trentaine de sièges pour ces parlementaires. Et il a proposé que chaque électeur dispose d'une seule voix. Et il doit choisir, soit je vote pour un représentant normal, soit j'utilise mon bulletin pour un représentant des générations futures. Donc c'est à l'électeur de choisir quel genre d'influence il veut avoir dans le système politique. Et ce qui est attirant dans cette vision, c'est que on aurait un certain nombre de députés ou membres de parlement qui auraient comme objectif, qui auraient comme éthique de défendre les intérêts des générations futures, ce qui n'est pas le cas dans les parlements actuels. Et il n'a pas une trop grande déviation, un trop grand détour par rapport au fonctionnement de nos institutions parlementaires. On utilise des moyens électoraux. La responsabilité est assurée par le fait que même ces représentants doivent se faire réélire. Donc, ils doivent faire tout ce que les partis politiques font pour se faire réélire. Et donc, ils auront un certain... modifierait le rapport de force au sein du Parlement. Face à pareille proposition, d'autres penseurs de l'écologie démocratique restent dubitatifs, dont moi. Pour réserver des places à ces nouveaux représentants, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur des critères d'éligibilité pour des associations qui se réclament des générations futures. Pour moi, je pense que c'est une question impossible. Je pense que tout le monde peut prétendre d'être représentant des générations futures. Et l'autre problème, c'est que même si ces représentants sont élus, ils sont par conséquent soumis aux incitations temporelles générées par des rythmes électoraux. Donc ils doivent se faire réélire tous les 5 ans et du coup, ils doivent faire le nécessaire pour changer leur discours, faire des compromis avec des autres représentants, etc., pour avoir des chances d'être réélus. Et du coup, les problèmes du court-termisme rentrent dans ce genre de proposition. Quatrième, une démocratie écologique délibérative. pour limiter les effets négatifs de ces travers de la vie démocratique, une quatrième forme d'institutionnalisation est pensable. Le but est d'une approche délibérative et de construire de nouvelles institutions favorisant un dialogue plus inclusif que la démocratie représentative, plus égalitaire et qui aboutit à des décisions rationnelles et justes pour tous les concernés. C'est un grand défi. Le challenge de cette approche est de concevoir des arènes des décisions démocratiques, d'où l'influence de l'opinion manipulée, des stratégies partisanes, des lobbies seraient réduites. Et secondo, il faut imaginer comment accorder des pouvoirs à ces arènes, de sorte qu'ils puissent exercer une influence réelle dans le fonctionnement de la démocratie. Et l'autre possibilité, c'est de penser même qu'il faudra une nouvelle chambre au même niveau que les chambres des deux chambres classiques dans la démocratie représentative, une chambre pour le long terme. Et donc Dominique va en parler un peu après moi. Ces possibilités ne sont pas totalement exemptes de critiques non plus. Premièrement, comment on va passer de ce que nous avons maintenant à cet autre modèle? Quelle sera la motivation pour les citoyens, pour le système politique, d'adopter ce genre d'institutions qui visent le long terme? Parce que si nous sommes court-termistes, de sorte que nous ne pouvons pas vraiment adopter ou prendre des décisions à long terme, pourquoi nous adopterons une réforme institutionnelle qui nous oblige à tenir compte du long terme? C'est un petit dilemme. Et puis, il y a d'autres penseurs qui reprochent à toute approche délibérative d'être une espèce de purification de la politique, de créer des petites assemblées qui sont pas la politique réelle. Donc, on crée une assemblée isolée du monde, avec des interventions très réglementées. Et à la fin, on peut se dire, mais c'est très très bien, c'est intéressant comme expérience, mais c'est pas la vraie politique. La vraie politique, ça se passe dans la compétition, dans la rue, un peu partout, hein, par la manipulation, par la ruse. Et donc, on peut pas contourner ce type de politique simplement en imaginant une nouvelle institution. Donc, au-delà des institutions, est-ce qu'on peut imaginer une démocratie écologique agonistique? Agonistique.
Combat.
On peut regarder simplement au-delà des institutions vers une sphère publique mouvementée et sans doute conflictuelle, irréductiblement conflictuelle. Catherine Larère m'a fait connaître l'œuvre de Razmi Kocherian. La nature est un champ de bataille. Oui. Il n'aura pas de consensus. Il n'a pas de gentilles raisons qui vont faire en sorte que tout le monde se rassemble pour la protection de la nature, etc. Il n'aura que des combats, en fait. Et c'est à nous de nous mobiliser, de faire le nécessaire pour tenter de relever le défi des environnementaux. Et il n'a pas d'autre solution, en fait. Et donc, lui, à la fin de son livre, il appelle à politiciser la crise. Et il faut mobiliser les personnes défavorisées par l'ordre capitaliste étatique actuel afin qu'ils se battent pour la justice environnementale. C'est un cri de cœur et un cri de combat. Hein?
Souvent, on nous dit, mais Kerry et toi, excuse-moi, vous êtes de grands naïfs. Ouais. Alors, votre troisième chambre, enfin c'est plutôt ça qui focalise les critiques, cette troisième chambre, ça ne bougera rien et ça ne changera rien. Certes, c'est une évidence. Dans un premier temps, ça ne changera rien et ça ne bougerait rien du tout. Ça, on en est assez persuadé. L'idée, c'est que, en revanche, ce genre d'instrument, avec la montée en puissance des difficultés qu'on connaît, pourrait effectivement finir par acquérir un rôle. C'est-à-dire que c'est une institution qu'on imagine dans une dynamique inséparable de l'entrée dans une accumulation de problèmes qui va de plus en plus heurter et toucher les sens de la population. Et à partir de ce moment-là, effectivement, cette institution pourrait jouer un autre rôle. Notre idée aussi était de dire que, effectivement, les institutions représentatives n'arrivent pas à prendre en charge, alors pour des raisons qui sont probablement aussi des raisons proprement anthropologiques, les difficultés environnementales parce qu'elles sont pas accessibles à nos sens, parce qu'elles sont abstraites, parce qu'elles renvoient à une causalité diffuse, parce qu'elles renvoient à une causalité extrêmement partagée, etc. Certes, tout ça est absolument juste. Cela dit, l'état du monde devrait, si l'on ose en croire ce que nous racontent certains de nos collègues des sciences, de la nature, devrait, et puis c'est en train de se faire, devrait changer. Et ce changement, le devenir plus sensible des difficultés, pourrait faire effectivement que cet instrument pourrait commencer à jouer un rôle. Et l'idée qui était la nôtre, c'était de dire que ben, puisqu'il y a une forme d'incapacité des institutions représentatives à prendre en charge les difficultés, et plus encore évidemment les anticiper, il faut commencer à faire évoluer le système, y introduire des instruments supplémentaires de contre-pouvoir non représentatifs pour ouvrir une dynamique d'évolution des institutions dont on ne sait pas du tout où elle pourra parvenir. On revient toujours à ce problème de la transition où là on est sur un moyen sans savoir au bout du compte jusqu'où iront les choses, et je crois qu'on en est totalement incapable aujourd'hui et c'est normal. Ok, voilà, on en a fini avec ce courant. Alors vous avez vu, nos courants, c'est un peu au sens d'un naturaliste, hein. Ça ne veut pas forcément dire que ça érige des partis politiques, ça ne veut pas forcément dire que effectivement il y a même forcément un véritable dialogue et le sentiment de cette communauté d'appartenance à un même courant des auteurs. C'est nous autres du lieu transcendant de l'analyste qui les affublons de telles catégories. Alors, le dernier courant en ce sens-là n'est pas facile à désigner parce que j'ai pas décidé, à la fois on pourrait dire survivaliste, mais je veux dire le mot a changé de connotation. Les survivalistes, alors surtout en Europe aujourd'hui, c'est les gens qui construisent des bases d'autonomie durable, enfin, c'est plutôt des gens richissimes qui s'achètent un chalet en haute montagne où ils accumulent force bazooka et boîte de conserve. Donc vous imaginez bien que c'est pas tellement notre tasse de thé, hein. C'est pas du tout à ça qu'on pense. Donc le mot survivaliste aujourd'hui est un peu plombé par une certaine littérature pas très sympathique. Apocalyptique, c'est mal perçu par le public, alors que l'apocalypse, c'est une révélation. C'est d'abord la révélation d'une situation et le passage vers autre chose. Donc effectivement, on est bien dans la transition. Effondrement, c'est ce qui coïnciderait mieux. On va voir que c'est à double tranchant. Mais évidemment, pour mobiliser les foules, l'effondrement, c'est quand même pas génial. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Donc je sais pas comment l'appeler. Alors on dit survivaliste apocalyptique, effondrement. Mais vous voyez bien qu'il y a une certaine fragilité dans la taxinomie. Alors, cela dit, on est sur une très vieille affaire. Je dirais que dès ses fonds baptismaux, la pensée écologique, alors la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est celle de Dobson, hein, en fait, hein, d'Andrew Dobson, la pensée écologique flirte avec l'apocalypse. Ça lui est vraiment consubstantiel. Il y a deux textes qui sont assez forts dans le genre. Il y a celui très connu depuis très longtemps, qui est Man and Nature de George Perkins Marsh, où là, le côté apocalyptique est évident. D'ailleurs, là, l'aspect religieux est très profond, parce que ce qui le remet pour lui, la situation dans laquelle on s'enfonce, c'est le fait qu'on s'imagine imago dei, donc être une espèce à la fois étrangère, extérieure à la création, et ne relevant pas de ses lois. Bon, peu importe, laissons ça, mais le motif apocalyptique est très intéressant. Et là, simplement, petit détour sur un livre que nous avons publié avec Alain Papeau, ici présent dans notre collection « L'écologie en question », dont l'auteur est assez connu, j'imagine, Hicham a fait ça, qui justement essaie de montrer, si vous voulez, comment finalement le discours apocalyptique des Anders, des Jaspers, des Shane, je crois que j'en ai oublié un, Russell, Bertrand Russell. Donc, il montre que la structure proprement apocalyptique du discours qui se construit dès les années 40 sur la menace nucléaire, au sens militaire du terme, est un discours dont on va retrouver la structure dans l'écologie politique. Et en fait, il montre ensuite que ces structures de pensée qui vont être tout d'abord mobilisées par ces auteurs, ces premiers auteurs sur l'apocalypse nucléaire, qui vont être remobilisées, mais parfois il suffit simplement de mettre crise écologique, même si j'aime pas cette expression, à la place de menace nucléaire, et grosso modo, on a un discours plus ou moins équivalent. Il nous montre comment, alors franchement, on va rechercher des thèmes très profonds, des thèmes très profonds de la pensée théologique à proprement parler, et en montrant que le discours écologique qui semblerait être étranger à celui-là est le discours de l'éthique environnementale, et il montre comment, en fait, même au moins partiellement, ce discours entre là. Donc effectivement, on a affaire à un motif au long cours, à une structure de pensée sur laquelle on s'appuie pour penser des aspects délicats, menaçants, de la réalité, et qui aujourd'hui sont en quelque sorte multipliés par à la puissance 14 par les difficultés que nous avons fini par engendrer. Cela dit, ce motif apocalyptique, il est très directement introduit par le rapport Meadows, et c'est lui qui va lancer ça, et ça a donné lieu depuis lors à une immense tradition, aussi bien dans le domaine anglo-saxon que dans le domaine français. Je faisais allusion tout à l'heure à Homo Deandi. Alors, on a Antionas, on a Dupuis, mais on a des gens plus jeunes. Certains sont là. Bruno Villalbin, Luc Semal, etc. Peut-être Mathilde, j'en sais rien, elle nous le dira. Bon, mais en tout cas, il y a manifestement une... Et puis, l'Institut Momentum, c'était rappelé hier fortement par Yves Cochet, et très récemment est paru un livre que je trouve excellent, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, qui s'appelle Tout peut s'effondrer, publié dans cette excellente collection Anthropocène aux éditions du Seuil, qui reprend nommément cette histoire avec beaucoup de talent, je trouvais, beaucoup de nuances, cette histoire de l'effondrement. Cela dit, maintenant, on a vraiment affaire, par rapport à l'effondrement, on a affaire à deux sensibilités qui sont symétriques. On a affaire à une sensibilité d'évitement. Jonas, Dupuis, l'idée, c'est évidemment l'évitement de l'effondrement. Et puis, on a une autre tradition selon laquelle, en fait, l'effondrement n'est pas évitable. Et donc là, on a une autre tradition où, au contraire, l'idée, c'est on n'arrivera pas à l'éviter, et comment on peut, à partir de là, reconstruire. Et ce que j'aime bien dans le livre de Stephen Servigne, c'est qu'ils mettent ça aussi au cœur de leur démarche, et souvent, même sans qu'on parle d'effondrement, le second Ophuls, celui de la revanche de Platon, etc., on peut dire qu'il y a, sans qu'ils le disent, il y a un présupposé d'effondrement, puisque par définition, ils se donnent la possibilité de repartir de la reconstruction de petites démocraties, je vais faire sorosoïste. Ça n'a pas de sens sans un effondrement préalable. Le municipalisme libertaire, Bookchin, franchement, il rêve, sauf effondrement. Et du coup, d'une certaine manière, je ne sais pas si tu nous le diras, toi, Luc, on peut aussi interpréter, peut-être, d'une certaine manière, au moins des rameaux de la transition, Transition Network, à partir de ce genre de choses. Alors, cela dit, l'effondrement, évidemment, ce n'est pas du tout à comprendre comme les jours d'après. Ça n'a rien à voir avec Hollywood. Il est fort possible que nous soyons déjà dans une dynamique d'effondrement. Il suffit de voir certaines campagnes françaises, je ne vais vexer personne. Bon, il suffit de regarder certaines villes américaines, etc., pour se dire que manifestement, avec le phénomène de métropolisation, avec le néolibéralisme, nous sommes déjà dans une dynamique d'effondrement. En tout cas, c'est une thèse qu'on peut défendre. Et si on regarde, pour nous autres Européens, le référentiel majeur qu'on a quand on parle d'effondrement à Rome, évidemment, l'effondrement de l'Empire... ils ne sont pas réveillés un jour en disant l'Empire s'est effondré. C'est deux siècles, avec des effets éminemment différents sur les lieux. Dès 410, 411, 412, en Angleterre, au sud d'Angleterre, ils ne reçoivent plus de briques, ils ne reçoivent plus de monnaie, ils ne reçoivent plus de poterie, une poterie romaine qui était extrêmement luxuriante et variée dans ses formes. Et puis, vous regardez le château de Tintagel, il est à peu près un kilomètre d'une ancienne villa romaine. Château de Tintagel, vous allez beau faire toutes les fouilles, c'est le château du roi Arthur, en Cornouailles, vous pourrez faire toutes les fouilles que vous voulez, vous trouverez trouverez plus une pièce de monnaie. La seule poterie que vous trouvez, c'est vraiment un truc dégueulasse, tout noir, sans couleur, complètement friable. Et puis, alors, je vous dis pas là encore, c'était en pierre, mais ailleurs, on revient au torchis. Le torchis en Angleterre, c'est pas le torchis dans la région de Troyes où j'ai habité, c'est infesté de parasites. Bon, en gros, c'est effectivement une régression au, disons, à l'âge du bronze, assez coquette et rapide, et puis sur le reste de l'Empire, bah, vous avez un long décrescendo sur deux siècles. Donc, encore une fois, l'effondrement, c'est pas du tout un scénario hollywoodien. C'est un scénario qui peut être très long. Et à partir de quand le sait-on? Eh bien, je vous pose la question. Ok. Alors, voilà pour le dernier courant, en le pensant d'une façon non caricaturale et en lui donnant la place qu'il mérite, je m'empresse de dire qu'on peut appartenir à deux courants à la fois. Pour ma part, je me classe dans le courant institutionnaliste et celui d'effondrement. Et lequel courant institutionnaliste a un sens aussi bien avant qu'après? Ce qui me semble assez important. Enfin bon. Après, chacun peut délirer. J'ai commencé, mais vous pouvez y aller. Simple rapport entre l'écologie politique et le développement durable. Le développement durable a été pensé comme une machine de guerre, quand même, un peu contre l'écologie politique. C'était souvent dit, je pense pas que ce soit faux. Mais en fait, l'écologie politique est revenue, alors vraiment, à peine masquée, avec la durabilité forte. Même critique, même scepticisme affiché vis-à-vis des techniques. Par définition, c'est même un trait des années. Et puis, si on l'apprend, la durabilité très forte à la Brian Norton, même critique de l'anthropocentrisme, en tout cas dans les côtés les plus radicaux de l'écologie. Donc la durabilité forte, je suis vraiment désolé, mais c'est l'écologie politique. Bon, non, elle n'a jamais disparu. Et puis je dirais que, pour revenir, je suis parti du contexte d'aujourd'hui, mais du contexte initial, le contexte de la fin des années 60, le contexte du début des années 70, bien, le contexte aujourd'hui est franchement très différent, même si, on l'a vu, il y a un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'items qu'on retrouve 40 ans après, pratiquement inchangés. Mais en revanche, il y a des aspects très différents. Ben, je dirais que l'aspect extrêmement différent, c'est évidemment l'entrée dans l'Anthropocène. Alors j'imagine que dans cette assemblée, tout le monde connaît les travaux de Rockström, et puis revus par Stephen au début de cette année, avec le fait que sur les 9 limites qui sont les 9 indicateurs, même si 3 ne peuvent être chiffrés, du basculement dans l'Anthropocène, nous avons dans 9 domaines déjà basculé, et le tout dernier, celui de l'usage des sols, récemment, dans l'Anthropocène. Et qu'effectivement, le contexte est très différent. Le contexte est très différent, et en fait, c'est assez curieux, parce qu'on a un mélange de... Et ça en dit long sur notre inaptitude à essayer de penser le futur, et donc c'est une manière de souligner les difficultés où nous sommes à penser ce que pourrait être un objectif de la transition, parce qu'au bout du compte, nos savoirs fondamentaux, grosso modo, je dis bien, mais vraiment grosso modo, en tout cas au moins vers la fin des années 70-70, sont les mêmes qu'aujourd'hui. Mais l'appréhension qu'on en a est complètement différente. Je ne suis pas les seuls à afficher une crinière blanche dans cette salle. Ceux qui ont vécu à Rio se souviennent de l'enthousiasme. On pensait vraiment qu'on allait pouvoir anticiper les dégradations majeures du système Terre. 25 ans après, un quart de siècle après, attendez, je veux dire, faut être franchement naïf pour ne pas dire stupide, pour croire qu'on a réussi. Et donc, du coup, le temps s'est immensément contracté, et je dirais que l'indicateur excellent de la contraction du temps, c'est Hans Jonas. N'oubliez pas que Hans Jonas, pour lui, effectivement, il reporte de la catastrophe nucléaire, il reporte les mêmes schèmes de pensée, là, fait ça tout à fait raison, sur la catastrophe invisible qui découle de l'accumulation bénéfique, en moins en apparence pour chacun, de consommation tout à fait anodine. Et c'est ça qui transforme les conditions de viabilité du système biosphère. Mais lui imaginait les effets délétères à X générations. Je suis désolé, c'est notre, plus encore pour ceux qui sont plus jeunes, générations qui vont beaucoup plus vivre. Et on est parti, c'est fait, à telle enseigne que sur le plan de la biodiversité, on pourrait afficher même une inquiétude plus importante qu'on affiche en termes de climat, parce que le degré de dégradation est complètement vertigineux. Je vous renvoie au dernier papier collectif là, de Barnowski, publié dans Scientist Advances, je crois, il me semble. Mais en tout cas, assez effectivement hallucinant. Et je voudrais terminer là-dessus. En l'espace de même pas un quart de siècle, on aura vécu une contraction du futur qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait une autre période dans l'histoire où on ait vécu une telle contraction du temps. Et c'est précisément ce qu'on ne veut pas voir. Voilà, nous en avons fini avec Kelly.